France Inter, il est 7h.
France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 24 janvier 2020. Bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, c'est le jour J pour le projet de réforme des retraites. Le texte sera présenté ce matin au Conseil des ministres à l'issue d'un mouvement social historiquement long. 7 semaines de grève et de manifestations et une nouvelle journée de mobilisation nationale aujourd'hui. Les autres titres, Agnès.
Les derniers Français à avoir pu quitter Wuhan sont arrivés hier à Paris alors que l'épidémie s'étend en Chine. Le Parlement européen comptera d'ici quelques jours 5 députés français supplémentaires grâce ou à cause du Brexit. À 6 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, nous verrons comment les sportifs tentent de s'acclimater à la chaleur. Et puis un couturier africain en vedette exceptionnelle de la Fashion Week parisienne.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, rendez-vous avec une icône du cinéma, actrice fétiche d'Almodovar. Elle est à l'affiche du dernier film d'Olivier Assayas, Cuban Network, rencontre avec Penélope Cruz tout à l'heure. Et à 8h20, dans le grand entretien de la matinale, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, répondra à vos questions. Vous pouvez appeler le standard dès maintenant au 01 45 24 7000 ou intervenir sur l'application France Inter.
France Inter.
Des retraites au flambeau contre la réforme des retraites. La 7e journée de mobilisation contre le projet du gouvernement a commencé dès hier soir dans une douzaine de villes avec des lampions en guise de banderoles. Les cortèges ont ainsi rassemblé plusieurs milliers de personnes à Paris et Nantes, plusieurs centaines à Lyon, Dijon, Bordeaux, Strasbourg, Rouen et Marseille. Un défilé parti de la gare Saint-Charles et suivi par Sarah Tuchérère.
Dans la nuit noire, des dizaines de lampions s'élèvent. L'un d'entre eux vient de s'échapper des mains de Sylvie, retraitée.
C'est tous les salariés qui sont en lutte pour la suppression de ce projet de loi destructeur de notre société.
Un lampion égale
une lueur d'espoir.
Député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon apprécie le spectacle.
C'est magnifique. Ça montre qu'ils sont bien dans le rythme d'invention de formes qui captent le regard, qui renouvellent l'action, qui la prolongent parce que la grève c'est dur et les gens ont beaucoup souffert.
Personne ici ne parle de fin du mouvement. Au contraire, il s'amplifie, dit Frédéric de la Fédération de la Métallurgie.
Certaines professions sont entrées dans l'action depuis maintenant un certain temps, les cheminots, la RATP, l'Opéra de Paris, etc., etc. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont aussi en grève et d'autres qui viennent de rentrer, que ce soit de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du commerce, des services publics.
Avec ses collègues Docker, Mathieu s'est mobilisé dès décembre pour sauver un statut qui permet à la profession de partir à la retraite un peu plus tôt que la moyenne. Il n'a pas l'intention de s'arrêter.
Ça reste quand même un métier dur. On a 10 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne française. On le fait parce qu'on est obligé, parce qu'à un moment donné, il faut défendre le beefsteak et c'est comme ça.
Depuis début janvier, le port de Marseille est entièrement bloqué. 3 jours par semaine. Le mouvement est d'ores et déjà reconduit la semaine prochaine.
L'intersyndicale, qui espère aujourd'hui une mobilisation massive, doit justement se réunir ce matin à Paris pour décider de la suite à donner au mouvement. La CFE-CGC appelant pour sa part à faire une pause. Cette 7e journée de mobilisation, au 51e jour de la mouvement, coïncide avec la présentation officielle de la réforme en Conseil des ministres. Le texte sera ensuite examiné à l'Assemblée à partir du 17 février en vue d'un premier vote début mars. Et dans le même temps, une première réunion des partenaires sociaux destinée à trouver des systèmes de financement des retraites est prévue le 30 janvier. Concrètement aujourd'hui, il faut s'attendre à des perturbations dans les transports, à la RATP avec des lignes de métro perturbées, mais aucune ligne ne sera complètement fermée. 3 bus sur 4 en moyenne en circulation, perturbations dans une moindre mesure à la SNCF, avec une circulation normale des TGV, 7 TER sur 10 et 6 Transiliens sur 10. Des perturbations possibles également dans les aéroports. Le principal syndicat enseignant, SNUPP-FSU, annonce de son côté 40% de grévistes dans le premier degré. Et dans les lycées, à la colère contre la réforme des retraites s'ajoute celle contre la réforme du bac. Au moment où sont organisées les premières épreuves du bac nouvelle formule, une contestation parfois émaillée de violences. Inadmissible pour Philippe Vincent. Il est le secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement.
On n'accepte pas les formes de mise en danger d'établissement, les intrusions, les dégradations, des dégradations de copies ou de sujets. Enfin, il y a un certain nombre de formes d'action qui sont totalement inacceptables. Par exemple, le fait de devoir pratiquement défendre son établissement comme derrière une barricade pour empêcher une meute d'extérieur de rentrer, qui finissent quand même par y arriver en forçant une porte annexe. Ben voilà, on peut pas considérer que les lycée se transforme en château fort avec les douves et les donjons simplement pour organiser une session d'examen dans le calme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des limites qui ont été franchies et qu'il faut revenir à l'application stricte du droit. droit et de la loi. On ne peut pas s'introduire dans un établissement lorsqu'on n'est pas personnel, y compris par la force. On demande simplement qu'un certain nombre d'organisations réfléchissent à leur mode d'action et considèrent qu'il doit y avoir des limites à leur action et qu'on veut bien défendre la situation des élèves, mais que ces formes d'action en fait portent directement préjudice aux élèves et aux établissements.
Un témoignage recueilli par Fanny Oyer. Aujourd'hui, la manifestation contre la réforme des retraites à Paris partira de la place de la République à 11h pour rejoindre la place de la Concorde. Et pour tout comprendre sur cette réforme des retraites, rendez-vous sur franceinter.fr. Hélène Filly a décortiqué les 64 pages du projet de loi. Ce climat tendu, Emmanuel Macron l'a évoqué hier soir dans l'avion qui le ramenait en France après deux jours passés en Israël. Le chef de l'État a notamment dénoncé les discours extraordinairement coupables, affirmant que la France est devenue une dictature. Essayez la dictature et vous verrez, a lancé le chef de l'État. L'entretien doit être diffusé ce matin par Radio J, une radio de la communauté juive. Dans le sud du pays, l'heure est à la décrue après les trombes d'eau qui se sont abattues sur l'Aude et les Pyrénées orientales. C'est la tempête Gloria. Cela a entraîné une hausse du niveau des cours d'eau et des inondations. Ce matin, seule l'Aude reste en vigilance orange inondation.
7h06, la suite du journal. 26 morts, 830 personnes contaminées. C'est le nouveau bilan du coronavirus en Chine, Agnès.
Et le dernier cas mortel concerne une personne vivant en dehors du foyer de l'épidémie. La victime est décédée dans une province frontalière avec la Russie, à plus de 1800 km de Wuhan, la ville désormais coupée du monde. Les autorités tentent ainsi de limiter la propagation du virus. Le dernier vol Wuhan-Paris a atterri hier après-midi à Roissy. Bastien Munch était à l'arrivée. Reportage.
Encore un masque devant la bouche, ces passagers ont pu quitter Wuhan in extremis. Alors que leur billet était déjà réservé, ils ont appris que toutes les lignes allaient être coupées. Philippe et Véronique reviennent en France pour les vacances du Nouvel An chinois.
À une demi-heure près. Je pense que l'aéroport était fermé une demi-heure
après. Notre avion n'était pas plein parce que les gens n'ont pas pu accéder à l'avion.
Je pense que la France, ils ont réussi à avoir la dernière autorisation et Dieu soit loué, sinon on était coincés là-bas.
Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait des soldats partout, ils allaient fermer l'aéroport.
Pierre était en déplacement professionnel à Wuhan. À sa descente de l'avion, à Paris, personne n'a contrôlé sa température, ni celle des autres passagers. Lui trouve ça un peu léger.
Quand on connaît là-bas, on est contrôlé partout. Et ici, on s'attendait au moins vers le truc de fièvre, quoi, et puis il n'y a rien. On nous donne un papier à remplir, et puis ça sera sûrement pour nous suivre, pour savoir où on est, et s'il y a des cas qui se déclarent, savoir où la souche où elle est, mais c'est tout.
Et Pierre ne compte certainement pas attendre qu'un cas se déclare en France. Il a déjà prévu de prendre toutes ses dispositions.
Je vais sûrement appeler le 15 pour être sécurisé. Bon, j'ai aucun symptôme, j'ai de la chance, mais on ne sait pas. Et comme il y a 14 jours d'incubation, je suis peut-être porteur, mais je ne sais pas. Et comme ma fille est enceinte, j'ai des petits-enfants et tout, je ne vais pas attendre d'avoir les symptômes pour appeler le 15. Quoi.
À compter d'aujourd'hui, la compagnie Air France annonce suspendre sa desserte de Wuhan jusqu'à nouvel ordre.
Quant à l'Organisation mondiale de la santé réunie durant deux jours à Genève, elle a décidé qu'il était encore trop tôt pour déclencher une alerte internationale. Le fondateur d'un laboratoire pharmaceutique condamné à 5 ans et demi de prison, une première aux États-Unis. L'homme à la tête du groupe INSIS a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir payé des médecins afin qu'ils prescrivent du fentanyl, un puissant antalgique. Les pots de vin atteignaient certaines années les 10 millions de dollars. La crise des opiacés a fait des centaines de milliers de victimes outre-Atlantique. Une ambiance morose hier au Parlement européen. Les élus ont validé la première étape du Brexit avant le vote en séance plénière la semaine prochaine. Après seulement 7 mois de mandat, les 73 eurodéputés britanniques élus en mai dernier vont donc devoir céder leur place à 27 nouveaux eurodéputés d'autres nationalités. En France, ils sont ainsi 5 à se préparer à entrer au Parlement. Flora Mendy a rencontré 3 d'entre eux.
Ils se font appeler les Picards. 5 députés européens français sont restés congelés, comme ils disent, pendant l'interminable feuilleton du Brexit. La future eurodéputée de La République En Marche, Ilana Sicurel, prend les choses avec philosophie.
Nous sommes en voie de décongélation et donc nous sortons avec une grande fraîcheur.
Pour le coup, la 23e députée du groupe Renaissance au Parlement a largement eu le temps de préparer son mandat.
Vous n'êtes pas pris dans cette fièvre d'installation que nous allons bientôt vivre et ça vous permet de travailler en profondeur les dossiers qui vous intéressent, tout en ayant ce recul nécessaire.
Après ces longs mois, Claude Gruffat, chez Les Verts, se dit serein avant d'entamer son tout premier mandat.
Quand on a attendu aussi longtemps avec autant d'incertitudes, c'est pas une explosion de joie, c'est pas comme juste après les élections. On voit tous les élus qui sont effectivement heureux d'avoir gagné l'élection. Là, la situation est plus silencieuse, j'ai envie de dire.
Avec ces réattributions, le groupe des Verts pourrait perdre 7 membres au Parlement européen, tandis que le groupe Identité et Démocratie, dont le Rassemblement National fait partie, gagnerait 3 eurodéputés. dont Jeanlin Lacapelle.
Ça va changer l'équilibre en effet, et le groupe Identité Démocratie va être renforcé de députés supplémentaires, dont moi. Je ne savais pas si le Brexit se ferait, je le souhaitais pour le peuple britannique, donc c'est une bonne surprise.
Rééquilibrage des forces en perspective, le groupe Identité et Démocratie passerait de 5e à 4e groupe devant les Verts.
Le compte à rebours a commencé pour les sportifs à 6 mois tout juste du début des Jeux Olympiques de Tokyo, cérémonie d'ouverture le 24 juillet, et il y a fort à parier que la chaleur sera au rendez-vous. Le pays attend des températures caniculaires et les athlètes, Jérôme Val, s'entraînent déjà en conséquence.
Charline Picon est prévenue. Cet été, la championne olympique de planche à voile à Rio a disputé une compétition au Japon et comme prévu, il a fait chaud et humide. Le scénario serait identique dans 6 mois. Il faut donc anticiper, explique Charline Picon.
On a tout ce qu'il faut pour essayer de refroidir le corps avec de la glace, des serviettes, des gilets de froid. Puis avant la compète, on essaye de s'acclimater à la chaleur. Donc que ça soit en France, il y a des technologies qui permettent de le faire ou sur le site.
Des technologies pour supporter des températures supérieures à 30 degrés et des taux d'humidité proches de 80%. La Fédération française de triathlon travaille sur ce sujet depuis 5 ans en analysant Mance, son directeur technique national Benjamin Maz.
On multiplie les expositions à ces conditions chaudes et humides. Certains de nos sportifs, en janvier, là, ils sont à La Réunion, ils vont refaire en février un protocole de 8 à 10 jours en chambre climatique. Ils vont aller à Abu Dhabi en début mars parce que c'est un peu à l'instar de l'altitude. Il faut pouvoir anticiper et préparer ça.
Les spectateurs aussi seront soumis à la canicule. Les organisateurs ont prévu de la neige artificielle, des brumisateurs, des éventails et même un nouveau revêtement de route pour amener un petit vent de fraîcheur sur ces Jeux.
Une expérience qu'ils pourront toujours partager avec les footballeurs qui vont jouer au Qatar en 2022.
Et on termine, Agnès, avec la Fashion Week parisienne, la semaine de la mode, avec la présentation hier de la collection d'un couturier africain.
Iman Aïssi a installé son atelier à Paris il y a 28 ans. Originaire du Cameroun, il aime mélanger les cultures et les tissus. Il a présenté hier 25 robes dans les salons d'un hôtel parisien près des Champs-Élysées. Rémi Brancato était au premier rang.
Les sonorités sont africaines, forcément dans ce salon de l'hôtel Le Marois. Pour les 25 robes de sa collection, Iman Aïssi mêle la noblesse de la soie aux matières brutes comme le raffia. À la fin du défilé, le couturier embrasse la comédienne Fanny Ardant au premier rang.
C'était magnifique. Iman est un ami avec qui j'ai joué au théâtre. Les matières, vous avez vu les matières? Je suis toujours content quand je vois quelqu'un dont le rêve est arrivé à bon port.
Pour le Camerounais, 28 ans de carrière, ce défilé dans le calendrier de la haute couture, c'est une consécration. Iman Aïssi en pleure.
Mes larmes signifient beaucoup de douleur pour la jeunesse africaine. Ces Africains qui partent en croyant que l'Eldorado, c'est ailleurs. L'Eldorado, c'est aussi au Cameroun, c'est au Sénégal, c'est tous ces pays africains.
Et pour valoriser ces richesses, pas question d'utiliser par exemple le wax, ce tissu introduit par les colons.
On a besoin de connaître mieux les vrais tissus africains. Il y a le Faso d'Anfani de Burkina Faso, il y a le Ndob des pays Bamileke au Cameroun. Il y a tout un tas de tissus qui existent que le monde ignore.
Un travail salué par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.
Sans être dans le pur folklore, le style d'un créateur qui puise dans ces traditions-là, c'est peut-être ça le vrai luxe.
Et Iman Aïssi entend bien en être l'ambassadeur. Objectif, rester dans le club de la haute couture parisienne.